Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Au Maroc, la course contre la montre pour tenter de sauver Ryan, 5 ans, tombé au fond d'un puits. Objectif 2024 pour Donald Trump. Rien d'officiel encore pour l'instant, mais le milliardaire républicain continue de remplir ses caisses. Il a déjà collecté 122 millions de dollars. Début des vacances de février, peut-être au ski. Coup de projecteur sur Puy Valador, une petite station des Pyrénées-Orientales sauvée grâce à un couple qui a investi toutes ses économies.
Un point sur nos invités, Karine, ça commencera dans 20 minutes.
Le dessinateur, auteur de BD, Mathieu Sapin, il vient présenter La Disparition, un film documentaire consacré à l'histoire déclinante du Parti Socialiste.
Et à partir de 8h20, question ce matin sur le Forum de l'Islam de France, cette entité qui sera installée officiellement aujourd'hui. On va en parler avec un spécialiste des religions et de la laïcité, Franck Frégosi.
France Inter. Au Maroc, dernière ligne droite pour sauver Ryan, ce garçon de 5 ans tombé accidentellement mardi dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur. Seulement les équipes de secours n'ont pas pu descendre directement dans le puits car son diamètre ne dépasse pas 45 cm. Il a donc fallu creuser autour du puits. Les pelleteuses Zédic Ralfi ne sont plus qu'à quelques mètres de l'enfant.
Et oui, tout le monde ici retient son souffle dans l'espoir de voir le calvaire du petit Ryan finir au plus vite. Ça fait à présent 4 jours et 4 nuits qu'il est bloqué au fond du puits. Et c'est très long pour un petit garçon, surtout qu'on est en montagne avec des températures négatives. Le village où se trouve Ryan s'appelle d'ailleurs Beb Berd, ça veut dire la porte froide en marocain. À bout de force, le petit Ryan est blessé, il risque donc désormais l'hypothermie. Et c'est une course contre la montre qui continue avec l'idée de ne pas confondre vitesse et précipitation. Hier soir, on pensait le dénouement proche, mais il y a eu un léger glissement de terrain. Il a fallu évacuer les badauds, remettre les pelleteuses en marche et stabiliser le terrain. Toute la nuit, les yeux ont été rivés sur les secouristes de la protection civile. Ils ont repris avec la plus grande prudence leurs travaux pour atteindre le petit Ryan. Ils creusent presque à l'horizontale un tunnel secondaire pour accéder à l'enfant.
Zédic Ralfi à Casablanca pour France Inter. Madagascar retient aussi son souffle. Le cyclone Batsirai, porté par des vents moyens de 185 km à l'heure et des rafales pouvant aller jusqu'à 260 km heure, pourrait toucher l'île. Des dizaines de milliers de personnes sont sur la route de ce cyclone. Madagascar a déjà été durement touché la semaine dernière par la tempête tropicale Anna. L'épidémie poursuit sa décrue en France, l'épidémie de Covid, mais reste encore élevée chez les plus de 70 ans. Plus de 241 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, presque 33 000 personnes hospitalisées, 3 618 en réanimation. Notez qu'en Polynésie française, les cas de Covid ont été multipliés par 4 en une semaine et les États-Unis ont dépassé désormais les 900 000 morts. L'Autriche franchit un nouveau cap dans la lutte contre l'épidémie de Covid. Le pays devient aujourd'hui le tout premier de l'Union européenne à rendre la vaccination obligatoire pour les plus de 18 ans. Et puis au Canada, ce sont les contraintes sanitaires qui ne passent pas. Ottawa, Toronto, Québec, les opposants ont de nouveau prévu de manifester aujourd'hui dans plusieurs villes pour réclamer la levée des restrictions. Il cache de moins en moins ses intentions pour la présidentielle de 2024. Et il est de plus en plus riche. Donald Trump a réussi à amasser 122 millions de dollars de réserves de trésorerie depuis la fin de son mandat. Un trésor de guerre qui montre sa domination financière sur la politique républicaine. Sébastien Paour, c'est un record pour un ancien président.
Jamais un ancien président n'avait récolté un tel trésor de guerre politique après son départ de la Maison-Blanche. C'est plus que les comités nationaux démocrates et républicains réunis. Trump reste la principale source de financement en ligne du parti, des dons de moins de 200 dollars pour l'essentiel. Il faut dire que d'après les comptes déposés à la Commission électorale fédérale, l'équipe Trump a dépensé plus de 8 millions en publicité par SMS, ces messages que vous recevez plusieurs fois par jour pour vous inciter à donner des dons. Trump en a fait lui aussi à 41 candidats qu'il soutient pour les élections de mi-mandat début novembre. Le maximum autorisé, 5 000 dollars, notamment aux sénateurs de l'Iowa ou de Floride, ou encore aux élus du Texas et du Colorado à la Chambre des représentants. 1 million de dollars aussi à l'Institut où son ancien chef de cabinet, Mark Meadows, est associé principal. Tout cela fait dire à son directeur de la communication qu'il est incroyablement bien positionné pour regarder vers 2024. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
La politique en France, c'est ce duel à distance. Éric Zemmour en meeting à Lille, Marine Le Pen à Reims, convention présidentielle pour la candidate RN et nouveau grand meeting pour le candidat Reconquête, suivi de 2 discours dans l'après-midi, le tout dans un contexte de ralliement de cadres RN à Éric Zemmour.
On connaît le mois sans tabac, le mois sans alcool, et bien maintenant voici 3 jours sans téléphone. Ce sera à partir de demain et jusqu'à mardi.
Et serez-vous capable de vous passer de votre smartphone. Pas si simple de laisser dans un tiroir un objet qui désormais sert d'assistant administratif, de salle de cinéma ou de carnet médical avec le précieux pass vaccinal. Beaucoup d'adultes se disent accros à leur téléphone. En réalité, la peur d'être séparé de son téléphone, qu'on appelle la nomophobie, c'est une pathologie légère dans la plupart des cas, mais le smartphone a malheureusement renforcé les addictions aux jeux d'argent et aux paris en ligne. Explication du docteur Amandine Lequiens du CHU de Nîmes.
On a des chiffres précis qui montrent l'augmentation d'addictions qui peuvent, certaines, être faites en ligne, comme par exemple les jeux de hasard et d'argent. Et donc ça, c'est clair que sur les 10 dernières années, la prévalence, donc le nombre de personnes qui sont atteintes d'une addiction aux jeux de hasard et d'argent, elle a nettement augmenté. On approche, pour certaines activités, à du 15, voire même presque 20% de perte de contrôle de ce comportement.
Mais pour vous, médecin, on n'est pas addict au téléphone portable, on est addict à une application de jeu dans le téléphone portable.
Voilà, exactement. En fait, on ne peut pas être addict à un objet au sens addiction, au sens neurobiologique du terme. On peut développer une addiction simplement à un produit ou à un comportement qui va récompenser le cerveau. Le téléphone portable, finalement, il va simplement potentialiser ce potentiel addictif d'une activité parce qu'il est disponible 24h sur 24, toujours à portée de main, toujours disponible.
Amandine Lequiens, docteur au CHU de Nîmes avec Christine Simone. Le smartphone et nous, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Les agriculteurs de la FDSEA Bretagne sont en colère. Ils ont manifesté hier, ils réclament une meilleure rémunération de leur production. Selon eux, il faut mieux appliquer la loi Egalim 2 pour obliger les collectivités et les entreprises à utiliser davantage de produits français. Laetitia Bouvier, secrétaire générale de la FDSEA 35.
Le fil conducteur de cette journée, c'était le respect de la loi Egalim pour que nos productions agricoles soient toujours là demain, que nos produits soient payés à leur juste prix et pas bradés. L'alimentation a un coût à produire et elle vaut ce prix-là. Donc voilà, défendre nos produits, notre savoir-faire et notre alimentation. On a été bien entendu par l'État. Notamment, déjà en début de semaine, la filière porcine a été très très bien entendue et une enveloppe a été trouvée par le ministre et va être rapidement versée aux agriculteurs, aux producteurs porcins qui sont vraiment en très grande difficulté. Aujourd'hui. On leur a aussi dit que les autres filières étaient en difficulté, certes moindre, mais quand même en difficulté, et qu'il fallait être sous surveillance et il va falloir aussi agir sur toutes les filières.
Et Laetitia Bouvier, secrétaire générale de la FDSEA 35, au micro de Thibaut Delmarle de France Bleu Armorique. Ce matin, certains d'entre vous vont démarrer leurs vacances de février, ou les vacances d'hiver. Peut-être irez-vous au ski, et peut-être même, qui sait, dans la toute petite station de Puy-Val-Adore. C'est une station de ski à 1700 mètres d'altitude dans les Pyrénées-Orientales, à 2 heures de route de Perpignan. Elle avait fermé en 2017 pour des raisons financières. Et 2 ans plus tard, un géomètre de Carcassonne et son épouse ont investi toutes leurs économies pour faire redémarrer les remontées mécaniques. Reportage d'Anna Bonnemazou-Carrère.
300 000 euros, c'est la somme que Jérôme et Natalia Sabartès ont dû réunir.
C'est assez rigolo parce que je ne connaissais pas du tout la station de ski, mais par contre, j'adorais l'environnement, ces petits chalets qui sont bien intégrés dans la forêt.
En 2017, le couple apprend que la station endettée va fermer. Jérôme et Natalia se lancent un défi, démarrer une nouvelle vie et reprendre le domaine.
On a fait un projet, je ne dirais pas pour s'amuser, mais on a fait un projet pour voir ce qu'on pourrait envisager de faire. Et on s'est pris au jeu. C'est notre ménage actuellement qui finance, donc on l'a dit à notre échelle.
Aujourd'hui, une dizaine de salariés font tourner la station et c'est lui-même, géomètre de profession, qui passe la dameuse.
La dameuse, j'ai dû faire l'apprentissage, donc je me pensais d'arriver dans un avion. On est assez débrouillard, on est très investi. Quand on est arrivé, tous les commerces étaient fermés.
Désormais, Puy-Val-Adore s'anime le mercredi et pendant les vacances scolaires. En moyenne, 100 à 200 personnes dévalent chaque jour les pistes en ski ou en luge. Une micro-station qui a su trouver son public face au grand domaine skiable.
On a de très bons retours. On a un téléski double. Vous avez les skieurs qui montent d'un côté, les lugeurs qui montent de l'autre. L'idée, c'est d'amener au ski, sur des remontées mécaniques, des gens qui sont non-skieurs. Raisonnablement, dans 3-4 ans, si les choses fonctionnaient comme on voulait, on pourrait envisager de tout réouvrir comme c'était avant.
Et pour le couple, la saison de ski s'achève fin mars.
Reportage d'Anna Bonnemazou-Carrère.
Dans le journal de Laurence Thomas, le temps.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et ce samedi est un peu un entre-deux, hein, Jean-Michel Golinski.
Une journée d'alternance entre deux perturbations. Celle d'hier que l'on trouve ce matin entre le nord des Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Elle va rapidement se déliter en résistant tout de même un peu plus longuement près des Pyrénées et laissant en général du soleil pour la plupart des régions avant l'installation d'un temps couvert, pluvieux et venteux la nuit prochaine par la Manche. Et demain, pluie et vent seront le lot commun de la journée sur toute la moitié nord du pays. Cet après-midi, les températures toujours supérieures au normal vont évoluer entre 8 degrés sur le centre, la Bourgogne et la Franche-Comté, jusqu'à 15-17 de la Corse au golfe du Lion. Il fera 10 à 12 du sud-ouest au Limousin, sur la Bretagne et la région parisienne, 9 dans le nord, sur la Champagne, l'Alsace et les monts du Lyonnais.
Jean-Michel Golinski de Météo France.